CFM. CFM Radio.
Bonsoir tout le monde, à qui le tour, c'est dingue, votre rendez-vous politique ce soir, spécial prochaines élections régionales, avec un nouvel invité ce soir dans nos studios, et tout ceci vous est présenté par Kader Youb. Bonjour Kader. Rebonjour, puisqu'on était ensemble déjà à midi.
Rebonjour Aurélien, bonjour à tous. Merci d'être fidèle à Politiquement Votre, le rendez-vous politique de CFM Radio. Cette émission est diffusée également en direct du Facebook Live de CFM Radio. Avec nous aujourd'hui, Aurélien Pradier, chef de file de la liste du Courage pour l'Occitanie, soutenu par Les Républicains et l'UDI. Bonjour Aurélien Pradier et bienvenue.
Bonsoir,
sur CFM Radio.
Et merci de m'accueillir.
Vous êtes né à Cahors il y a 35 ans et vous avez 21 ans lorsque, venant de passer un an et demi à tourner en rond en faculté de droit, vous dites vouloir prendre votre revanche, ne pas vouloir céder à la fatalité. C'est ce que je lis sur votre portrait que consacré un hebdomadaire. Vous partez alors dans une terre historiquement gauche, à gauche, avec votre carte d'adhérent à l'UMP en poche, battre la campagne à Mobilette, et vous emportez alors un siège de conseiller général. Ce n'était pas encore les conseillers départementaux, face à votre ancien instituteur, aimez-vous à rappeler. La suite, c'est une élection comme maire de la Bastide de Murat en 2014, conseiller régional en 2015. Vous laisserez ce siège acquis en 2015, vous le laisserez en 2018, puisqu'en juin 2017, après la présidentielle, vous devenez député de la République. Êtes-vous devenu, Aurélien Pradier, et n'y voyez là aucune connotation négative, un professionnel de la politique désormais ?
Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire un professionnel. Moi, je viens d'une famille qui n'a jamais fait de politique. Mes parents ne faisaient pas de politique. Je viens d'un milieu très modeste. On a pris quelques coups dans la vie, mon frère, mes parents et moi. Et en fait, la République m'a tout donné. Je suis un enfant de la République. Quand à 21 ans, je pars sur ma mobilette faire ma première campagne électorale face à mon instituteur, j'ai pas appris ce qu'était le métier de politique. Mes parents m'ont jamais appris ce que c'était. C'est pas un héritage. Donc non, je suis pas un professionnel.
Je disais, est-ce que vous êtes devenu finalement
avec, devenu, je crois
avec
pas.
Les scrutins, mais aussi le sac à dos que vous portez certainement.
Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les missions que l'on m'a confiées, j'ai appris des choses. Donc j'exerce la mission politique comme on exercerait un métier. Alors, ce n'est pas éternel. Dans 10 ans, je ne sais pas où je serai, je ferai peut-être autre chose. Je rachèterai une école de surf sur la côte atlantique et je serai heureux. Je n'imagine pas que la politique soit nécessairement éternelle. Peut-être que j'en ferai toute ma vie, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 13 ans, que je fais de la politique, que la République m'a donné cette chance, c'est au fond un parcours de méritocratie, et je le souhaite à tous les gamins de mon âge, de se lever tous les matins en faisant un truc qui leur permet d'être utile aux autres. Ça me rend heureux. Pas pour moi, pas pour mon ambition, pas parce que je suis député, mais je suis heureux d'être député quand je fais voter une loi pour protéger les femmes victimes de violences, quand je travaille sur le handicap. C'est ça qui me rend profondément heureux. Et donc, est-ce que je suis un professionnel ? Non. En tous les cas, j'essaie de faire les choses avec professionnalisme, ça c'est sûr. Parce que quand on est député, ce à quoi je ne crois pas, c'est qu'on soit un amateur. Vous savez, tous ceux qui nous ont expliqué qu'au fond, on faisait de la politique comme on faisait du foot le week-end, non. La politique, c'est une affaire grave, parce que ça implique la vie de nos concitoyens. Donc oui, je le fais avec sérieux. Heureusement, d'ailleurs. Et je déteste ceux qui ne font pas de la politique avec sérieux. Il n'y a rien de pire.
Vous conduisez donc la liste du Courage pour l'Occitanie, hein, pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Un mot de politique, si vous permettez, avant de débuter le chapitre régional. Vous êtes secrétaire général des Républicains. On ne connaît plus trop la ligne politique de votre parti, entre ceux qui tendent les bras à la République en marche, ceux qui n'écartent pas ouvertement ou secrètement l'idée d'un rapprochement avec le Rassemblement national. Où vous situez-vous, en fait ?
Écoutez, moi, je suis clair. Je me bats depuis de nombreuses années, depuis que je suis secrétaire général des Républicains. Je suis le plus jeune secrétaire général des Républicains de l'histoire de ce parti politique. On n'a jamais nommé un secrétaire général à 35 ans. Et donc, quand j'ai été nommé, je me suis dit que j'allais essayer de faire les choses un peu différemment. C'est pas la peine qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive en politique si elle fait les choses comme les autres. Moi, je ne partage pas le projet d'Emmanuel Macron. Non pas parce que je l'aime pas, c'est pas le propos, mais je ne partage pas son projet parce qu'il a un projet injuste, un projet méprisant, et que sur beaucoup de sujets, je suis en désaccord avec lui. Ce qu'il veut faire de notre pays, c'est pas ce que je veux faire de mon pays. La relation qu'il a aux Français, qui est une relation de mépris, c'est pas ma manière de faire de la politique. Donc, il y a aucune raison que j'adhère au projet d'Emmanuel Macron. Et j'ai toujours combattu le Front National. Parce que le Front National, pour moi, c'est la négation du rassemblement de la société. Vous savez, j'ai passé des années au Conseil régional.
Oui.
J'ai vu comment se comportaient les élus du Rassemblement
justement,
national.
Justement, vous disiez, je crois, hein, lorsqu'il y a quelques semaines, vous l'avez rappelé, vous étiez venu à Montauban pour présenter votre liste de Tarn-et-Garonne. Vous aviez déclaré, hein, à peu de choses près, si les Français assistaient à des commissions à la région ou au département au sein desquels siègent des élus du Rassemblement national, ils seraient vaccinés à vie de revoter pour eux. Vous vouliez dire quoi par là?
Je veux dire que on est, à mon sens, trop indulgent avec le Rassemblement national. Ce sont des imposteurs. Je ne parle pas des électeurs. S'il y a des électeurs qui votent Front National, c'est qu'il y a une raison. Il ne faut pas les mépriser.
Oui.
Mais en revanche, les candidats sont des imposteurs. Moi, j'ai été conseiller régional pendant des années. J'ai vu des conseillers régionaux, lorsqu'on parlait de subventions à des associations, des conseillers régionaux du Front National, de parler d'art nègre. Qui prononce ce mot de nègre? J'ai vu des élus du Rassemblement national crier « Vive le roi » à la fin de leur phrase. Il y a quelques semaines, le conseiller régional qui a été élu Rassemblement national dans le Lot a été mis en garde à vue parce qu'il a fait partie de ceux qui ont manifestement organisé l'invasion du conseil régional. Mais il n'y a pas un seul électeur du Rassemblement national qui adhère à ça. Et donc mon devoir, c'est aussi de dire que moi, je n'ai rien à voir avec ces énergumènes du Rassemblement national. Moi, mes valeurs sont celles de la droite,
ouais,
la droite républicaine. Et donc, je refuse d'aller à la soupe, de faire la girouette d'un côté ou de l'autre. Je trace mon chemin, même si c'est plus difficile.
Est-ce que vous admettez tout de même, Aurélien Pardier, qu'une partie de votre électorat soit déboussolée, finalement?
Bien sûr, mais vous savez, si la tâche elle était facile, il y aurait beaucoup de monde pour faire le boulot que je fais. Moi, quand je suis candidat aux élections régionales, c'est pas facile. Je suis un député de droite, vous le disiez, moi je suis un Chiraquien, dans une terre de gauche. Vous le disiez tout à l'heure, le Lot, c'est une terre de gauche. Ça veut donc dire qu'il y a des électeurs de gauche qui ont voté pour moi. Pourquoi ils ont voté pour moi? Pas parce qu'ils ont cru que j'étais de gauche. Ils ont voté pour moi parce qu'ils savent que je suis droit dans mes convictions, que je joue pas la girouette, pour pas prononcer un autre mot plus brutal. Et je pense que ce qui manque à la politique aujourd'hui, c'est cette forme de droiture. Comment vous voulez qu'on respecte les politiques si les politiques sont pas respectables? S'ils passent leur temps à aller à la soupe d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que cette période, elle est difficile. Pour notre électorat, elle est difficile. Pour les Français, elle est difficile. Pour la droite, elle est difficile aussi. Je considère que c'est dans les moments difficiles qu'on voit ceux qui ont un peu de courage et ceux qui n'en ont pas. Moi, j'espère en avoir.
Mais très franchement, Aurélien Pradier, est-ce que vous craignez pas qu'à la fin, le Rassemblement national devienne finalement le parti qui agrège en son nom toute la droite française?
Non, parce que la droite française, elle n'a rien à voir avec le Front National. Vous savez, on oublie de dire des choses qui sont fondamentales. Le candidat du Rassemblement National en Occitanie, on a eu une discussion très véhémente il y a quelque temps. Pourquoi? Parce qu'il me disait « Mais monsieur Pradier, qu'est-ce qu'on a de différent, vous et moi ?» Et je lui ai rappelé ce qu'on avait de différent. Ce monsieur qui est candidat aujourd'hui du Rassemblement National en Occitanie, quand il était député il y a quelques années, moi j'étais bébé, il a porté un amendement à l'Assemblée nationale pour remettre en cause l'IVG. L'accès à l'IVG pour les femmes. Moi, je me suis battu à l'Assemblée nationale pour faire progresser les droits des femmes. J'ai fait voter une loi à l'unanimité sur ce sujet. Mais voilà une différence. Moi, je ne ferai jamais campagne avec quelqu'un qui veut remettre en cause l'IVG. Je ferai campagne avec celles et ceux qui veulent faire progresser les droits des femmes. C'est ma vision du projet de société. Et donc, c'est vrai que c'est difficile dans un moment où on voudrait absolument que la droite républicaine, elle se vende ou à Macron ou à Le Pen. Eh ben non. Il y a encore des femmes et des hommes qui sont là pour dire « Nous, on tiendra bon. On n'est pas à vendre à la découpe. »
Est-ce que vous faites partie de la majorité qui pense comme ça, au sein de votre parti?
Je crois qu'au sein de ma famille politique, il y a de plus en plus de monde qui pense ça. Mais une fois de plus, je pourrais démissionner, au fond. Me dire, écoutez, bon, c'est pas grave, c'est plus mon affaire, je laisse faire. Non, j'ai envie de me battre.
Vous y avez pensé?
Non, j'y ai pas pensé parce que j'ai envie de me battre. Parce que je pense que ma famille politique, elle a un avenir. Et j'aime pas les lâches. J'aime pas ceux qui se barrent quand c'est difficile. Et donc c'est peut-être difficile, mais je suis candidat, je suis là, et je resterai là.
Alors, que pensez-vous de Xavier Bertrand qui se présente à sa réélection en Hauts-de-France, qui est candidat à la candidature ou au candidat à la présidentielle de l'année prochaine, qui est en tête des études de sondage devant le Rassemblement national, devant une large union de la gauche et devant La République en marche?
Moi, je trouve que Xavier Bertrand a de grandes qualités, c'est un ami.
Mais comment vous l'expliquez sur un territoire très, très difficile où la précarité est importante? Pourquoi, il vient d'être président, il a été président, pardon, depuis 5 ans, il est encore en tête des sondages?
Parce qu'il a fait du bon boulot.
Oui.
Mais vous savez, moi j'ai été candidat aux élections législatives dans le département du Lot. Quand je suis candidat, le Rassemblement national fait un score misérable. Dans ma commune où j'ai été maire, après que j'ai eu fait un mandat, où j'ai porté un projet de maison de santé, où j'ai trouvé des solutions pour nos agriculteurs, pour créer de l'emploi, plus personne ne votait Front National, ou quasiment plus personne. La vérité, c'est que les Français et nos concitoyens, quand ils voient leurs responsables politiques faire du bon boulot, bah, ils ont envie de leur faire confiance. Et ça vaut pour Xavier Bertrand, comme ça vaut pour d'autres candidats. C'est vrai pour Valérie Pécresse en Île-de-France, c'est aussi vrai pour Laurent Wauquiez dans sa région Rhône-Alpes, parce qu'ils voient le bon boulot qui est fait par ces élus. Et si demain je suis à nouveau candidat pour être député dans le Lot, oui, on a passé la journée dans le Lot aujourd'hui avec le président du Sénat, bah, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui n'ont pas forcément mes idées politiques. J'ai rencontré des jeunes tout à l'heure à la sortie d'un café après être allé boire un pot. Bah, ils me disent « Écoutez, nous on n'est pas forcément de droite, mais on vous soutient ». Parce que le travail que vous faites nous correspond, notamment sur les grands sujets que j'évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, je rencontrais une jeune femme de 18 ans, elle me dit « c'est la première fois que je vais voter cette année, et je vais voter pour vous ». Et pourtant, je n'ai pas exactement vos idées, je ne me sens pas forcément de droite. Mais par contre, ce que vous avez fait pour protéger les femmes victimes de violences à l'Assemblée nationale, ça m'a convaincu que vous étiez un bon député. Mais voilà, c'est comme ça que les choses se passent.
La droite doit renouer avec une vision populaire, pas avec une vision rétrécie. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Est-ce que le projet que vous portez pour la région possède une dimension populaire?
Oui, lorsque j'annonce ma candidature pour la région Occitanie, pour présider cette région, pour la transformer, je dis d'abord que la région, elle aura demain trois grandes causes. Le handicap, la protection des femmes et des enfants victimes de violences et la lutte contre la pauvreté. Et bien voilà trois grandes causes qui permettent de rassembler nos concitoyens, qui sont aussi des causes sociales. Mais ça vaut aussi sur les questions économiques. Quand je propose que tous les jeunes de 16 à 30 ans, dès lors qu'ils auront consacré 2 mois à une association, 2 mois de bénévolat, peuvent avoir droit demain, c'est le projet que je porte, à un prêt de 50 000 euros à taux zéro pour financer un projet. C'est cette question du donnant-donnant. Et moi, je veux demain être le président d'une région qui soit juste, qui donne une chance à tous ses concitoyens lorsqu'ils le méritent.
Au soir du premier tour, il y aura sûrement des décisions à prendre. Pourriez-vous vous désister dans le cas où le Rassemblement national serait en mesure de remporter la région?
Le Rassemblement national ne gagnera pas à cette région. C'est clair, net et précis. Ils ne sont pas en situation de le faire. Et vous savez, je me suis beaucoup interrogé sur cette idée que le soir du premier tour, on se retire de la candidature et qu'on dise à des électeurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, vous votez tous comme ça.
Mais ça s'est fait.
Oui, mais ça ne marche pas. C'est ça la réalité. C'est qu'on se fait plaisir dans les mots, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je vais avoir demain des électeurs qui vont voter pour moi. Ils m'auront choisi et ils m'auront préféré à d'autres candidats. Si le soir du premier tour, je leur dis « Vous allez voter finalement pour un candidat contre lequel je me suis battu. » Et vous croyez que les électeurs vont le faire? Non, non, ils ne vont pas le faire. Il y aura deux solutions. Ou ils vont aller à la pêche, et ce sera l'abstention, et ça va aider à faire élire le Front National, ou peut-être même qu'ils vont voter contestataire, c'est-à-dire Front National, parce qu'on n'est pas propriétaire des électeurs. Et donc la meilleure manière de les respecter, c'est d'arrêter de les balader. Plus on arrêtera de balader les électeurs, moins ils auront envie d'aller voter pour les extrémistes. Et donc j'ai dit que je me maintiendrai au deuxième tour par honnêteté vis-à-vis des électeurs.
Quel bilan vous faites de Carole Delga, très rapidement?
Moi, je suis candidat face à elle parce que je pense qu'on peut mieux faire. La région Occitanie, c'est devenu une grosse administration aujourd'hui. Et moi, je veux demain que ça devienne un vrai outil politique. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait faire beaucoup mieux. Je veux parler de la jeunesse, je veux parler de l'emploi, je veux parler de l'agriculture, je veux parler de l'économie. Et donc, j'ai des solutions alternatives. Un exemple simple, Carole Delga, elle a fait exploser l'endettement de la région de 48%. On a aujourd'hui une des régions qui est les plus mal gérées de France, avec des coûts qui sont des coûts de fonctionnement, qui ne sont pas utiles au quotidien des concitoyens. Je vous parlais tout à l'heure de la protection des femmes et des enfants. J'ai proposé qu'on fasse de cette question-là une grande cause. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans notre région. Donc moi, je souhaite faire que cette région soit la première de France en matière économique, en matière agricole, en matière de soutien à la jeunesse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis candidat face à Carole Delga, pour proposer une alternative.
D'accord. Aurélien Pradier, je vous propose de marquer une courte pause de publicité. On se retrouve tout de suite après.
À Villebourbon, beau soleil comme à Falguière, vous écoutez CFM Montauban.
Avec Aurélien Pradier, député du Lot, secrétaire général des Républicains et surtout, aujourd'hui c'est ce qui nous importe, chef de file de la liste du Courage pour l'Occitanie, soutenu par les Républicains et l'UDI. Aurélien Pradier, nous restons un pays jacobin avec une tradition qui reste assez centralisatrice. Êtes-vous un partisan de plus de décentralisation?
Oui, on a vu d'ailleurs durant la crise sanitaire que si nous n'avions pas eu les communes, les territoires, au fond une forme de décentralisation, l'État aurait été à genoux sur les masques, sur les tests, ce sont les collectivités qui ont fait le boulot. Et donc il faut aller plus loin sur la décentralisation, mais il faut garder un cap. Moi, je suis un républicain. Et donc, je ne veux pas, par exemple, que sur l'école, on ait, en Tarn-et-Garonne, une école différente de celle du Lot ou de celle de la Haute-Garonne. Je ne veux pas qu'en matière de santé, on ait des hôpitaux différents dans le Lot, en Haute-Garonne ou dans le Tarn-et-Garonne. C'est déjà en partie le cas et je ne voudrais pas que ce soit davantage le cas. Donc, pour moi, l'État, il est aussi garant d'une forme d'équité, républicaine, d'égalité républicaine. Donc, je suis décentralisateur pour qu'on fasse mieux ce qui peut être fait au niveau local. Pas la peine de faire les choses à Paris quand on peut les faire localement, mais il faut que le niveau national garde un œil sur tout cela pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'inégalité, parce que sinon à Neuilly, demain, vous serez très très bien soigné, vous aurez des écoles merveilleuses, c'est déjà en grande partie le cas, il y a déjà des inégalités, il ne faut pas les renforcer, il faut que l'État soit là pour garantir que partout sur le territoire de la République, on soit traité de la même manière.
On ne ressent pas une totale appartenance à la même région, que l'on soit de Montpellier ou de Toulouse, de Montauban, Cahors ou de Nîmes. Est-ce que vous ressentez finalement, cette dichotomie, je peux dire.
Oui, c'est cette fusion de régions, elle a été ratée. Il faut dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, c'est un point de différence que j'avais avec Carole Nalga. Carole Nalga, elle a voulu fusionner les deux régions. Elle était ministre de François Hollande à l'époque, et donc elle est responsable de cette fusion-là. C'est vrai que les paysages, les identités, les cultures ne sont pas les mêmes entre l'ex-Languedoc-Roussillon et l'ex-Midi-Pyrénées. Mais bon, cette région, elle est là aujourd'hui. On ne va pas la défaire. Le défi d'un président de la région, c'est de faire corps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire corps. Moi, c'est un des grands défis que je veux me donner. Je veux qu'on soit Montalbanais, Lautois ou Montpelliérain, on se sente appartenir à la même région. C'est pas exactement le cas.
C'est pas le cas.
Il y a beaucoup de travail. Parce qu'en plus, on n'a pas mis tout le monde sur un pied d'égalité. Vous savez qu'on a encore aujourd'hui des systèmes d'aide qui sont différents entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. C'est pas possible. Il faut en finir avec ça. Il faut qu'on soit tous traités à la même enseigne. Et puis, moi, il y a ce mot d'Occitanie. Ce mot d'Occitanie, je trouve qu'il est beau. Et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. On en a presque honte. Alors que ce territoire d'Occitanie, c'est un territoire qui pourrait nous rassembler davantage. Et donc j'ai dans mon projet notamment de faire de l'Occitanie un vrai fer de lance pour vendre nos produits et pour se sentir appartenant à un même territoire.
Alors, la région, il y a un enjeu crucial qui est le transport. Quelle est votre politique ? Qu'est-ce que vous voudriez mettre sur la table pour les transports en Occitanie ?
C'est un sujet très important, les transports, vous avez raison. En fait, on a trois sujets. On a la LGV, la fameuse LGV qu'on attend, sur laquelle il y a des engagements financiers.
L'Arlésienne, maintenant.
Oui, qui devient l'Arlésienne. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait donner 4 milliards d'euros pour la financer. Et je faisais remarquer quelques jours à Carole Delga qu'on ne savait toujours pas comment il allait financer les 4 milliards. Donc il faut être un peu sérieux sur le sujet. Et il faut faire avancer la LGV parce que c'est important. Mais ça ne suffit pas. On a aussi tous nos TER, nos trains de proximité. Moi, j'ai pris l'engagement que, au moment où on investira sur la LGV, on investisse aussi sur les trains de proximité. Parce que la LGV, ça ne concernera pas tout le monde. Et puis, il y a un autre sujet qui sont les routes. Vous savez, quand on a parlé du train, la LGV ou les TER, on a parlé de 10% de ce qui fait la mobilité aujourd'hui. Quand vous voulez vous déplacer dans nos territoires, vous avez besoin de la route. Et c'est pour ça que j'ai proposé un fonds d'investissement de 200 millions d'euros par an qui permettra de financer un axe routier stratégique par département. Parce qu'on a besoin de la voiture pour circuler dans nos territoires. On ne peut pas à chaque fois taper sur ceux qui utilisent la voiture. Bon, vous voyez, aujourd'hui, je viens du Lot, j'arrive à Montauban, je pars à la Grande Motte tout à l'heure.
Alors l'idée de RER qui finalement tisserait sa toile au travers de la région Occitanie, c'est une idée, un projet de Carole Delga, que vous le prendriez à votre compte aussi.
Mais ça ne suffira jamais à traiter toutes les mobilités dans la région. Quand vous allez traverser un département, vous avez besoin de la route. Et donc j'insiste parce qu'il y a une forme d'idéologie parfois d'écologistes qui ne sont pas des écologistes, qui sont des politiciens qui veulent absolument taper sur la voiture. Vous pouvez faire toutes les lignes de TER que vous voudrez, vous aurez toujours besoin de la route dans une région comme la nôtre. Mais on peut aussi faire de la route intelligente, de la route verte. Moi, j'ai proposé qu'on investisse dans des revêtements routiers qui sont moins consommateurs en énergie. Vous savez, aujourd'hui, on fait des routes qui consomment beaucoup en énergie de carburant parce que la granularité est trop importante, etc. On a des innovations qui permettent d'avoir des routes plus silencieuses, qui laissent passer l'eau, plus protectrices de l'environnement et qui consomment moins en énergie pour les véhicules. Ben voilà un beau chantier. Mais on aura besoin des routes demain. Et moi, je n'ai aucun problème à dire que j'investirai dans les routes pour que chaque habitant de la région ait une solution de mobilité.
On a compris que la LGV, vous foncez, vous irez.
Bien sûr, mais la LGV, il faut pas reculer devant la LGV. C'est un outil, pas le seul, c'est un outil et il faudra pousser.
Et vous répondez quoi à Antoine Maurice qui, ici même, il y a une semaine, nous disait finalement tout l'argent Quand bien même la LGV se ferait, tout l'argent qui sera investi, qui sera injecté sur ce projet-là, annulera de fait tous les autres projets de RER, de mode de transport doux.
C'est pas vrai. Vous savez, Antoine Maurice, qui est le candidat des écologistes politiques, il aurait eu, il y a quelques années, la position d'être opposé aux autoroutes. Moi, je me souviens, il y avait des élus, il y a 15 ou 20 ans, même un peu plus, qui étaient opposés à l'arrivée des autoroutes dans notre région, qui disaient « ça va coûter trop d'argent, ça servira à rien ». On est plutôt bien content d'avoir les autoroutes aujourd'hui. Donc moi, en fait, je crois à une écologie positive, à une écologie de solution. Je ne crois pas, comme M. Maurice, à une écologie de la punition. Alors, c'est facile quand vous habitez dans Toulouse et que vous ne sortez pas de Toulouse. Vous pouvez dire, au fond, les ploucs, vous voyez, c'est souvent l'expression qu'on utilise, qui sont à l'extérieur, il faut qu'ils se débrouillent avec le train. Ben non, la vraie vie, c'est que, je le disais à Antoine Maurice, vous ne faites pas Cahors-Figeac en trottinette électrique, voilà, ni en vélo électrique. Le plan vélo, c'est très sympathique. Mais enfin, quand vous travaillez à Figeac et que vous habitez à Cahors, il vous faut un peu plus que le vélo électrique. Voilà pourquoi il faut investir sur les routes sans avoir aucun problème idéologique.
Alors, sur le transport, sur les modes de transport doux, nous avons ici, à Montauban, une association Monte à Vélo qui est précurseur et qui lance toute une série d'initiatives pour promouvoir l'usage du vélo en ville, mais aussi en territoire rural. Est-ce que cette idée de mettre en valeur le vélo vous semble une bonne idée, mais à plus long terme?
Oui, c'est une excellente idée. Dans mon département du Lot, on travaille sur la voie verte avec un axe de mobilité douce sur tout le département. Et c'est très positif. Et on a beaucoup évolué sur la technique, la technologie autour des vélos, etc. Moi, je suis très, 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 très intéressé par le sujet. Mais je dis juste que dans la vraie vie, ça ne peut pas remplacer la voiture.
Non, mais
voilà, c'est complémentaire.
Alors, l'idée de cette association, c'est à chaque fois qu'il y a un projet de voirie qui relie un village à un autre, il y ait, si vous voulez, cette perception du vélo comme fil conducteur de ces travaux.
Oui, et c'est très bien, on le fait déjà. Hein. Je vois, dans beaucoup de nos communes, on a des axes de circulation piétons qui n'existaient pas, vélo également. Et ça, je suis tout à fait prêt à le promouvoir. Je vous dis juste encore une fois qu'entre Cahors et Figeac, pour prendre cet exemple-là que je connais bien, il faut toujours la voiture pour circuler. Ça n'empêche pas qu'on a aujourd'hui beaucoup de chemins, beaucoup d'axes de circulation secondaire qui peuvent être réhabilités pour les vélos. Mais il ne faut pas confondre le tourisme, y compris pour les habitants, hein, qui, comme moi, ont envie d'aller faire du vélo le week-end, de ce qui est la mobilité du quotidien, la mobilité professionnelle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux, c'est que les deux cohabitent. Et je ne veux pas qu'on soit dogmatique sur un sujet comme sur un autre.
Antoine Maurice l'est ?
Oui, c'est un militant politique. Antoine Maurice, c'est le candidat qui nous dit qu'il ne faut plus manger de viande dans les cantines scolaires, qui nous dit que le Tour de France, il faut l'arrêter parce que ça pollue. Ben moi, ce n'est pas ma position. Moi, je préfère une écologie qui protège l'environnement, une écologie, par exemple, qui fasse qu'on achète des produits de proximité plutôt que des produits à l'étranger. Pas une...
CFM. CFM.
Oui, rebonsoir, toujours avec Aurélien Pradier, chef de file de la liste du Courage pour l'Occitanie. Aurélien Pradier, sur le tourisme, vous l'avez esquissé avant la coupure info, le tourisme, notre région est la quatrième région de France en termes de fréquentation pour des recettes qui se chiffrent en milliards d'euros. Sauf que la question du tourisme se pose aussi d'un point de vue environnemental. Est-ce qu'il faut ralentir le tourisme en Occitanie? C'est en tout cas ce que beaucoup souhaitent.
Le ralentir, non, ce serait une erreur. En revanche, le rendre responsable, oui, évidemment. Mais vous savez, c'est déjà en grande partie le cas. Il faut qu'on pousse. Dans nos territoires ruraux, on a une forme d'accueil touristique aujourd'hui qui n'a rien à voir avec les bus qu'on déversait il y a quelques années avec une consommation bête et méchante. Aujourd'hui,
ça s'est terminé.
Plus responsable. Il y a encore du travail à faire. Mais il y a quand même une vraie progression, notamment sur la zone littorale, qui est un peu loin de chez nous, mais qui est importante. On voit le tourisme changer. Il faut que la région accompagne, que les structures d'hébergement soient peut-être moins volumineuses, qu'on soit sur un tourisme davantage de proximité. Mais le tourisme, c'est une chance. C'est une chance pour nos produits locaux, c'est une chance pour notre vie locale, c'est une chance pour notre économie, pour nos restaurateurs, pour nos petits commerçants. Mais refaisons ce qu'on sait faire ici, c'est-à-dire de la proximité. Il ne faut pas chercher à
la proximité,
ressembler
au gros. Pouvez la faire dans le Lot, dans votre département, ici, chez nous, en Tarn-et-Garonne. Mais comment faire la proximité dans l'Hérault, ou dans, au Gros du Roi, au Cap d'Agde?
En réorganisant les choses, notamment sur les hébergements. Vous voyez, je serai à la Grande Motte demain, on va parler de ce sujet. Il y a une grande rénovation à faire des structures d'hébergement. Il y a un vrai travail qui est fait déjà sur la protection du littoral. À l'époque, on bétonnait beaucoup, maintenant c'est fini. Il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Moi, je crois à un plan littoral beaucoup plus fort que ce qui est porté par la région aujourd'hui pour notamment protéger ces espaces-là, qui sont des espaces précieux, avoir des bandes naturelles entre la ville et la mer, favoriser les déplacements doux. Tout ça, ça contribue à faire de ce tourisme un tourisme responsable. Mais même dans nos territoires, c'est important. On a un tourisme qui se développe beaucoup, qui est le tourisme des sports de plein air. Voilà un sujet sur lequel il faut travailler. Que quand des touristes viennent faire du VTT chez nous, viennent faire des courses à pied, ils le fassent de manière responsable, qu'ils ne jettent pas leurs déchets, qu'on ait une éducation à la protection des chemins, de la faune et de la flore. Ben ça, c'est un tourisme qui, en plus, ressemble à notre manière de faire. Mmh. Ça, c'est tout à fait nous.
Vous avez une sensibilité écologiste ?
En tous les cas, de préservation de l'environnement, oui. Moi, je pratique beaucoup de sports de plein air depuis que je suis gamin. Je fais du surf, alors pas beaucoup ici, mais un petit peu loin d'ici. Et vous savez, quand vous pratiquez ces sports-là, vous avez une éducation assez naturelle à la protection de l'environnement. Vous voyez le milieu changer. J'ai beaucoup de courses à pied et de trail aussi. Et donc, ce sont des espaces qui sont mes terrains de jeu. Donc, on a envie de les respecter, de les protéger. Mais ce contre quoi je me bats, c'est une forme d'idéologie politique. Je le redis, mais quand des écologistes nous disent qu'il ne faut plus de viande à la cantine scolaire, ils défendent tout sauf l'environnement. Quand ils nous disent qu'il ne faut plus de Tour de France, ils défendent tout sauf l'environnement. Et donc, moi, je me bats sur des sujets importants, notamment l'éolien. Je considère aujourd'hui que l'éolien, c'est une aberration, ça massacre nos paysages, ça pollue nos sols. Mais voilà des postures idéologiques où on dit, au fond, c'est écolo de faire des éoliennes, alors que quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que c'est tout à fait contraire à l'environnement.
Mais ça, il faut arrêter les éoliennes pour vous.
Moi, j'ai dit que lorsque je deviendrai président de la région, je mettrai un stop immédiat aux nouveaux projets de développement d'éoliennes terrestres qui sont une aberration et qui sont un carnage pour l'environnement. Faisons du photovoltaïque sur des bâtiments qui existent. On a, par exemple, des centaines de milliers d'écoles dans notre région. Mais faisons en sorte que 100% des écoles, des toits de nos écoles, soient couverts de photovoltaïque, que les bâtiments publics soient couverts de photovoltaïque quand ils peuvent l'être. Les bâtiments techniques de nos municipalités, couvrons-les de photovoltaïque. Et quand on aura fait ça, on aura déjà beaucoup fait. L'éolien, c'est une fausse bonne idée qui, je le redis, fait du mal à nos territoires, à nos paysages et à nos sols.
Sur l'économie, Aurélien Pradé, on a vu comment Airbus avait été malmené ces derniers mois de crise sanitaire. Faut-il réfléchir d'ores et déjà à une nouvelle industrie pour la région?
Ce qui est certain, c'est que nous aurons besoin d'accompagner toute l'industrie aéronautique. Alors, c'est vrai pour Airbus, mais tous ceux qui travaillent autour d'Airbus, tous les sous-traitants qui sont partout dans nos territoires et qui pèsent des milliers d'emplois.
C'est dangereux pour une région?
Ah oui, c'est dangereux. On n'a pas que cette industrie. Quand on dit qu'on est mono-industrie, ce n'est pas tout à fait vrai. On a une industrie agroalimentaire
agriculture, agricole et tourisme,
qui est très forte. Mais... Exactement. Pour ce qui est de la filière aéronautique, on va avoir deux sujets. D'abord, les sauver. Et ça, c'est important que la région s'engage. Moi, j'ai proposé un fonds d'investissement qui pourra lever jusqu'à 250 millions d'euros pour sauver les entreprises qui vont être en difficulté, pour ne pas casser l'emploi. C'est essentiel. Et puis ensuite, il faut qu'on réoriente. Aujourd'hui, des entreprises de sous-traitance qui fabriquaient des hélices pour des avions qui ne se vendent plus, il faut qu'on les réoriente vers d'autres sujets. Ça peut être l'avion vert, c'est-à-dire une technologie aujourd'hui qui consommera moins en kérosène. Il y a une vraie recherche à faire. On peut aller aussi sur ce qui relève du militaire. On a aujourd'hui besoin de fabriquer des avions qui vont aider les civils sur les terrains de guerre. Ce sont des marchés très particuliers, des secteurs très spécifiques, celui du militaire. Ça peut être un moyen de se diversifier. Et là aussi, il faudra que la région accompagne. C'est absolument fondamental.
Il y a des menaces. Des menaces, vous les entendez. Vous parcourez la région, des menaces sur l'emploi dans plusieurs entreprises, plusieurs usines. Est-ce qu'il faut aider encore plus? Est-ce que la région doit faire plus?
Elle doit faire aux côtés de l'État. Et il est évident que lorsque je suis dans l'Aveyron et que je rencontre les salariés de la Bosch ou de la SAM, mais partout ailleurs dans la région, je vois bien qu'il va y avoir une urgence. Et cette urgence, il faut que la région, elle y réponde. Avec le fonds souverain dont je parlais tout à l'heure, qui est un fonds d'investissement massif, qui lèvera jusqu'à 250 millions d'euros, on va pouvoir rentrer dans les capitales des entreprises. C'est un peu technique, mais c'est-à-dire rentrer dans l'entreprise pour dire, écoutez, voilà, on sait que ça va aller mal pour vous pendant 5 ans, ne cassez pas l'emploi, on est là pour faire le tampon.
Et puis quand ça ira mieux... et après, là, vous désengagez.
Quand ça ira mieux, on sortira du capital et on laissera l'entreprise faire ce qu'elle a à faire.
Est-ce qu'il faut conditionner les aides de l'argent? Est-ce qu'il faut les conditionner? C'est l'idée d'Antoine Maurice, de Mireille Martin. Est-ce qu'il faut... est-ce que c'est du donnant-donnant?
Oui, mais c'est une question morale. Lorsqu'on donne de l'argent public, on a envie qu'il soit utile à l'intérêt général. C'est tout à fait normal, et moi je défends cela aussi. Mais le problème, c'est la subvention. Quand vous donnez une subvention, vous n'avez pas de contrepartie. C'est pour ça que moi je propose que plutôt on prête de l'argent aux entreprises, qu'on rentre au capital des entreprises. Parce que ça veut dire que si un jour on est mécontent, on peut sortir. Donc on a un vrai levier sur ces sujets. J'ai d'ailleurs proposé que le fonds d'investissement dont je parlais, il ne rentre au capital de l'entreprise que si l'entreprise respecte des questions de préservation de l'emploi, de développement durable, d'emploi de salariés en situation de handicap, d'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà une méthode qui, à mon avis, est plus intelligente que la méthode actuelle.
Sur la formation professionnelle, est-ce que vous avez un plan? On sait que beaucoup d'artisans, dans votre département, mais ici aussi, d'artisans qui recherchent la main-d'œuvre, n'en trouvent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas valoriser certains métiers manuels auprès de la jeunesse?
Nous étions tout à l'heure avec le président Larcher dans le Lot, à la rencontre des restaurateurs, qui nous disait on va être obligé de réouvrir la moitié de notre capacité des restaurants parce qu'on n'a plus de main-d'œuvre.
Voilà.
Bon, lançons un plan de formation massif pour les jeunes qui sont en difficulté.
Vous l'avez prévu?
Oui, on l'a prévu et je veux même aller plus loin. J'ai proposé et je vais proposer dans les jours qui viennent qu'on puisse octroyer aux moins de 30 ans une bourse qui soit un revenu de près de 800 euros par mois dès lors qu'ils s'engagent dans une formation pour laquelle on a des débouchés. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin de former des jeunes au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Et on dit à nos jeunes aujourd'hui, si vous vous engagez dans cette formation-là, on vous aide durant le temps de la formation avec une bourse. Et ensuite, vous aurez une qualification qui vous permettra
de... Qui s'ajouteront au dispositif de droit commun.
Oui, qui s'ajouteront au dispositif de droit commun, qui sera une incitation. Moi, je préférerais toujours que ces jeunes-là, on les incite à aller vers une formation qui leur permettra d'avoir un métier, que de les laisser galérer.
La jeunesse qui a été très affectée par la crise sanitaire, comme d'autres, bien sûr, mais cette jeunesse-là, est-ce que vous avez des idées au niveau culture, sport, pour les aider à passer ce cap?
On a une jeunesse qui a été très marquée par deux choses, la crise sanitaire mais aussi le chômage. Vous savez, c'est la génération des trentenaires aujourd'hui, celle qui aura connu autour d'elle que le chômage de masse. Et moi, je voudrais que la jeunesse de notre région, à laquelle je crois beaucoup parce que j'y appartiens encore un peu, je suis encore un peu jeune, on lui fasse à nouveau confiance. Quand je propose qu'un jeune de 16 à 30 ans qui passera 2 mois de bénévolat dans une association, qui aura montré qu'il est capable de s'engager pour les autres, on lui propose un prêt à taux zéro de 50 000 euros pour financer un projet. Un projet professionnel, mais aussi un projet sportif, un projet associatif. On lui fait confiance. Le jeune, il nous fait confiance en faisant du bénévolat, on lui fait confiance en lui permettant de financer un projet. Voilà une idée concrète.
Les ordinateurs portables gratuits pour la région pour les jeunes lycéens, est-ce que c'est une bonne idée que vous reprendriez si vous étiez élu?
Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pour deux raisons. D'abord parce que moi, je veux connaître ceux qui en ont vraiment besoin. Des jeunes qui ne sont pas dans le besoin, on n'a pas besoin de leur donner un ordinateur, c'est absurde. C'est pas juste. Voilà, ça, c'est une espèce de distribution. Que des gamins qui sont en difficulté, on les accompagne? Oui, évidemment. Moi, j'étais maire, j'ai toujours fait ça. Et ça, on continuera à le faire. Et puis ensuite, vous savez, les ordis de la région qu'on retrouve sur le Bon Coin le lendemain qu'ils aient été distribués, ça veut bien dire aussi que certains reçoivent l'ordinateur alors qu'ils n'en ont pas besoin. Il vaudrait mieux faire du sur-mesure, du cas par cas, que faire des grandes opérations de communication.
Aurélien Pradi, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais le temps quand même d'aborder le chapitre de l'agriculture. Notre région, et vous le savez, est une grande région agricole française. Quel est votre plan d'action pour l'agriculture? Est-ce que vous aiderez les agriculteurs? Est-ce que ce sera soumis à des conditions biologiques ou pas biologiques? Quelle est votre politique en la matière?
Le sujet prioritaire pour notre agriculture, c'est l'accès à l'eau. On ne produit pas si on n'a pas accès à l'eau. Et aujourd'hui, on gère mal l'accès à l'eau. Moi, je vais proposer demain qu'on puisse remettre sur la table des projets de lacs collinaires. Lacs collinaires, vous voyez ce que c'est?
Oui, c'est des réserves.
Exactement, on récolte de l'eau qui tombe du ciel quand on n'en a pas besoin, pour l'utiliser quand on en a besoin.
Vous dites que c'est une fausse solution?
C'est une très bonne solution.
C'est une fausse solution, vous répond Antoine Maurice.
Mais je ne sais pas pourquoi il répond ça. Vous savez, chacun dans nos jardins, on a aujourd'hui des citernes d'eau qui récoltent l'eau de la gouttière pour arroser son potager. Il n'y a quand même pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que c'est plutôt une bonne idée. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont besoin d'eau. Ben, vous ne produisez pas dans les vergers si vous n'avez pas accès à l'eau. Et donc, plutôt que d'aller sur des réseaux d'irrigation, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, des réseaux qui sont des réseaux qui ne relèvent pas de réserves d'eau, pourquoi ne pas récolter l'eau qui tombe du ciel en hiver pour l'utiliser en été? C'est juste une notion de bon sens. Et quand le candidat d'Europe Écologie Les Verts s'y oppose, je ne comprends pas, sauf de l'écologie punitive et de l'idéologie. D'autant que vous savez, ces lacs qu'on a beaucoup dans le Tarn-et-Garonne, ils ont recréé un écosystème. Ce sont des lieux dans lesquels on voit des animaux venir à nouveau, on voit des espèces sauvages qui avaient disparu retrouver leur place. Et puis moi, je préférais toujours qu'on récolte de l'eau quand elle tombe du ciel pour l'utiliser quand on en a besoin. C'est du bon sens, tout simplement.
Cette question de l'eau, de la préservation de l'eau, elle est étroitement liée à la vision que l'on a de l'agriculture et au projet alimentaire dans un territoire. Est-ce que vous avez l'ambition d'une production alimentaire relocalisée ?
J'ai proposé que, au terme de mon mandat, 100% des produits consommés dans les lycées, produits alimentaires, soient des produits issus de l'agriculture régionale ou de l'agriculture nationale. Voilà une idée très concrète qui est une idée environnementale. Moi, je ne fais pas des grandes phrases sur l'environnement, je veux des actes.
Très très peu de temps pour conclure. Aurélien Pradier, est-ce que la dynamique, elle est chez vous ? Vous ressentez une dynamique autour de votre personne ?
Sur ma personne, j'en sais rien.
Candidature,
oui,
en tout cas, de votre équipe.
Je ne suis pas mégalo, donc je n'ai pas d'ambition personnelle. Ce que je sais, c'est qu'on fait une vraie belle campagne, qu'on est les seuls à faire campagne, et que sur le terrain, je sens cette dynamique-là. Je ne la sens pas du côté du Rassemblement National. D'ailleurs, ils n'ont aucune idée sur rien. Dans les débats, on le voit, ils ne pensent rien, ils n'ont pas de projet, ils n'écoutent pas les habitants et ça ne les intéresse pas. Et je pense que nous, on est en train de créer une dynamique. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est difficile ? Oui. Mais c'est justement parce que d'ici c'est difficile que je suis heureux de mener ce combat. Et je crois que la dynamique, elle est chez nous aujourd'hui.
Une dernière question, Aurélien Pradier. Vous, élu président de la région Occitanie, quelle sera votre toute première décision ?
Ce sera le lancement des trois grandes causes que j'ai évoquées tout à l'heure. La mobilisation de tous les habitants de la région autour du handicap, des violences faites aux femmes et aux enfants, et la lutte contre la pauvreté. Voilà des sujets qui, pour moi, sont importants, qui contribueront aussi à la sécurité de nos concitoyens, qui, pour moi, est une priorité.
Merci Aurélien Pradier.
Merci à vous.